chercheur oriental. Il réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est l'une de nos compagnies au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de nos présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à tous et à chacun, et merci de votre fidélité à Radio Okapi. La semaine dernière, le facilitateur désigné par l'Union africaine a annoncé l'imminence de la mise en place du comité préparatoire au dialogue politique convoqué par le chef de l'État. Monsieur Kodjo a depuis lors enregistré plusieurs demandes des états-majors politiques et d'autres membres de la société civile voulant bien entendu faire partie de ce comité. Les uns ont demandé au facilitateur de tenir compte de leur longue lutte pour la tenue de ces assises, et les autres ont estimé que c'est un droit qui leur revient. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde. Pierrot et la Mégie à la réalisation de ce programme coordonné présenté par Jérôme Nguembo sous la supervision de Martin Sebou Jangoui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-7315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Le comité préparatoire du dialogue devrait être constitué avant le déroulement du forum proprement dit. Il sera constitué de 30 membres, dont 6 de la société civile, 12 de l'opposition et 12 autres de la majorité. Alors, quels sont, selon vous, les profils idéaux de ceux qui vont composer les comités préparatoires? Est-ce que vous pensez, comme ceux-là qui soutiennent, que après avoir lutté pour la tenue de ces dialogues, ils ont d'office droit pour faire partie de ce comité préparatoire? Pendant que vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à toute l'équipe et à tout le monde avec qui nous allons nous échanger.
Quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole. Si nous devons repartir à base de ce qui se dit sur l'actualité politique de notre pays et surtout autour de contours sur les préparatifs sur la tenue du dialogue, je crois que nous devons interpeller nos compatriotes qui s'appellent politiciens et qui font de la politique, parce que jusque-là, nous sommes en train de nous rendre compte que les uns et les autres ne font que nous révéler certains sont voilés de leurs ambitions égoïstes. En dépit de certains aspects dont il faut tenir compte, nos politiciens doivent apprendre à se dépasser, à renoncer à leur égoïsme et surtout gourmandisme pour promouvoir les intérêts suprêmes de la nation. Parce que ce n'est pas en s'agissant de la manière dont il est question, surtout au sein de l'opposition, que tout sera facilement atteint. Monsieur le journaliste, nous savons tous qu'en réel politique, il n'y a pas de cadeau. On ne doit pas non plus encourager ce manque de constance dans la manière de percevoir les attitudes adoptées. Et ce qui est plus malheureux ici, c'est du fait que l'inconstance s'est devenue l'un des modus vivendi de nos politiciens. Mais par ailleurs, on doit aussi rappeler que les acquis de la démocratie pour lesquels les uns et les autres militent ne peuvent être atteints que s'il y a des contrepoids du pouvoir en place. Donc, une vraie opposition structurée et unie, une opposition avec un projet de société à suggérer comme un support d'alternance, une opposition avec des leaders soudés capable de prendre place à bord d'une même pirogue, mettant avant tous les intérêts
supérieurs de la nation. Oui, alors Franck, si on doit être clair et aider quand même les uns et les autres, l'UDPS, qui estime être la fille aînée de l'opposition, tombe sur sa position en disant que le 12, en fait, le quota qui revient à l'opposition doit d'office lui revenir. Et tandis que ceux qui sont aussi de l'opposition et d'autres plateformes pensent que cette réaction serait égoïste de la part de l'UDPS parce qu'ils font tous partie de l'opposition.
Oui, mais je crois que je n'ai plus le temps à répondre à leurs préoccupations parce que quand ils l'ont dit à un des membres de l'opposition, qui leur a répondu à travers des analogies de la poule et du canard. Moi, je crois que si on est de l'opposition, on doit travailler pour le bien de la population. Mais être de l'opposition ne signifie pas qu'on doit chercher à prendre les autres en otage. L'opposition a aussi une certaine historique Je ne suis ni de l'UDPS ni de ces autres partis politiques, mais je crois que c'est quand même trop, c'est quand même exagéré de dire que parce que c'est nous qui avons commencé, nous devons avoir droit à ces 12 membres. Mais si maintenant on doit poser aux gens de l'UDPS la question, mais au début vous avez contesté la légitimité de ces pouvoirs en place, et maintenant quand vous allez au dialogue, vous reconnaissez maintenant la légitimité de ces pouvoirs ou pas? Donc je crois qu'on doit éviter de faire cette politique de deux poids deux mesures. Quand les intérêts tendent vers votre côté, vous acceptez. Si c'est le contraire, vous vous retirez. Soit vous allez au dialogue en concertation avec les autres qui se disent opposants, moyennant un programme commun ayant au centre les intérêts de la population. Et sinon, c'est la logique de haute droite de là que je m'y mets. Je m'excuse pour le dire comme ça, parce que moi, personnellement, je ne vois pas à base de quelle logique les uns et les autres vont exiger l'intégralité de tous ces sièges-là. À base de
oui, Franck, je crois que l'histoire nous renseigne un peu tout. Aujourd'hui, je n'hésiterai pas d'avancer cette allégation qui dit, je cite, un chat échaudé craint même l'eau froide. Aujourd'hui, l'UDPS qui estime avoir été roulé par plusieurs fois, si nous remontons dans l'histoire, depuis 90, 93, avec cet article 78 qui a fait de l'actualité, le Premier ministre sortira de la famille autre que celle du chef de l'État, l'article 78 de l'acte constitutionnel de la transition, et l'UDPS n'a pas eu le droit, donc pour dire si c'est qu'il n'a pas bénéficié de ce droit. Nous remettons encore plus tard en 2003-2006 avec l'entrée en politique comme représentant de l'opposition, Zahid Ngoma, qui a pris la place du vice-président, tout en, au grand dam toujours de l'UDPS. Alors, je crois qu'à ce niveau, il y a une feuille de route proposée par l'UDPS, il y a également une feuille de route proposée par d'autres. Mais vous n'estimez pas comme les autres que c'est de leur droit aussi de craindre tout le monde et surtout des partis satellites.
Mais justement, monsieur le journaliste, je venais de parler du manque de constance dans la manière de percevoir des attitudes adoptées. J'ai dit l'inconstance, c'est l'un des modus vivendi de nos politiciens. Je crois que le problème, c'est pas seulement l'UDPS, mais nous devons critiquer l'attitude de l'homme congolais qui fait de la politique, qui, au lieu de faire une politique pour le bien de la population, le bien de la communauté, il fait de la politique pour sa poche. C'est justement cet égoïsme, ce gourmandisme qui fait toujours qu'au lieu de faire place à celui qui a des mérites, on va donner à celui qui ne l'a pas. Donc je crois que les gens de l'UDPS peuvent avoir des craintes, c'est justifié à base de faits historiques, mais en se référant à leurs craintes, ils étouffent les autres qui se disent aussi de l'opposition.
Merci beaucoup.
On peut me poser la question, c'est quoi vraiment le parti politique qui incarne les aspirations intégrales de l'opposition? Il y en a qui se disent, nous sommes telle dénomination, telle dénomination, telle dénomination. Et avec une opposition déjà fissurée comme ça, qui représente-t-il dans cette opposition-là?
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé les Kinshasa. Vous pensez qu'on doit interpeller les politiques aujourd'hui? C'est vrai que les uns et les autres, selon vos propos, nous font que dévoiler leurs intérêts égoïstes. Vous avez, fait savoir qu'en réel politique, il n'y a pas de cadeaux, certes, c'est vrai. Les uns estiment que, par rapport au fait historique, ils ont droit, mais on doit aussi tenir compte des aspirations de la population. Alain Brunozoa, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Alain.
Bonjour à tout le monde.
Voilà, Alain, vous venez de suivre Franck qui venait de parler tout à l'heure des aspects égoïstes des uns et des autres. Alors, quel est votre avis par rapport à la thématique? Le comité est préparatoire, les uns estiment qu'ils doivent absolument faire partie de ce comité pour avoir lutté pour l'organisation de ce dialogue. Les autres trouvent que c'est déjà leur droit.
Bon, comme l'a dit le premier intervenant, cette situation vient de mettre à nu la sociologie politique de notre pays. Où vous allez vous rendre compte, il y a des Congolais qui mettent en exergue leurs intérêts individuels au lieu de penser ou de réfléchir sur la solution à apporter au problème. Moi, personnellement, je me dis, compte tenu de la situation actuelle, s'il va se poser des problèmes, ça sera plus au niveau de l'opposition, comme vous l'avez dit, tout simplement parce que l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo est une muqueuse. C'est un ensemble de tout qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas donner une identité nette pour cette opposition. Mais si on doit tenir compte de ce qu'il y a, ils ont un quota de 12
offices,
mais c'est au niveau du comité préparatoire. C'est à cette opposition de nous démontrer effectivement qu'elle est en mesure de transcender ses faiblesses d'arriver à trouver le point commun et à mettre de côté leurs divergences. Si aujourd'hui ils sont incapables de nous donner la solution à ces problèmes, donc ils sont aussi incapables de trouver des solutions aux problèmes du pays.
Alors il n'y a pas que l'opposition, il y a la société civile qui en fait estime que comme on vient d'attribuer 12 membres pour l'opposition, 12 membres pour la majorité, et doit revenir aussi 24 postes pour les 24, donc on va devoir revoir les quotas, hein, atteindre même 24 pour la société civile.
Non mais si ils doivent demander 24, ça va faire au total 48, juste pour le comité préparatoire, et pourtant c'est que nous voulons, c'est qu'il y ait une cellule de réflexion qui va permettre à ce que le travail soit fait. Je sais que dans le dialogue, on aura peut-être 500 personnes, c'est à ce moment-là qui va faire prévaloir son droit. Mais c'est important que nous ayons cette cellule-là de réflexion qui va conduire à faire le travail en amont pour permettre à ce qu'il y ait le draft qui va servir de résolution.
Alors Alain, avec vous, quel est selon vous le profil idéal de ceux qui vont composer ces comités préparatoires?
C'est premièrement tenant compte de courant des pensées. Si vous prenez par exemple au niveau de l'opposition, nous avons l'UDF qui a sa philosophie. Il y a Steve Bikai et
Bitakura, Bolané, Zalbingoma.
Eux aussi ont leur vision. Nous avons deux tendances. On va associer les autres comme l'opposition républicaine, comme les autres qui vont venir intégrer. Et comme il y a 12. On répartit selon le courant des pensées, au lieu de répartir selon les personnalités.
Merci beaucoup.
Et moi, je m'inscris toujours en faux, d'estimer à ce stade de donner un quota plus important à l'UDF.
Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec ces propos, hein, des gens qui soutiennent que c'est l'UDF qui avait commencé ces combats, on l'a cessé de tous les noms des oiseaux en 2013, quand il demandait, il réclamait à corps et à cri les dialogues, Alain.
Non, du tout. L'IDPS a droit à quelque chose, mais l'IDPS ne veut pas s'accaparer la part du lion. Aujourd'hui, nous voulons mettre en place un comité qui va préparer les dialogues. Nous n'avons pas mettre en place un gouvernement. C'est-à-dire si on doit prendre l'IDPS 3 personnes, donc on aura 3 bouches qui vont parler de l'IDPS.
Merci beaucoup, Alain.
Alors,
merci Alain. On va prendre Félicien avant de retrouver notre invité qui vient de faire son entrée dans ce studio. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quel est votre avis après avoir écouté Franck Deviane et puis Alain Bolodjo à Kinshasa?
Oui Gérard, moi je vous dis que notre pays a déjà trop souffert des comportements de la classe politique qui se bat pour aller aux affaires pour leur intérêt personnel et non pas pour aller servir. Et chaque fois qu'il y a un forum comme ça qui s'annonce et tous se battent et ils sont prêts même à monter sur le mur et les fenêtres pour rentrer là-dedans et en fait pour ne rien faire parce que tous ils visent le papa du gâteau. Et moi je pense que le seul critère objectif serait qu'on puisse tenir compte de l'éthique, de la moralité, du patriotisme, nationalisme et autres valeurs que les Congolais ne possèdent pas vraiment quand ils veulent aller faire la politique. Et je pense que nos services de renseignement et de sécurité sont mieux équipés et sont compétents pour dresser la liste de tous ceux qui veulent, qui se battent pour aller à la commission préparatoire ou au dialogue et de montrer que tel autre a occupé à un moment de l'histoire de ce pays une fonction et qui n'a rien fait de bon. Alors, il ne s'en sert pas que des gens comme ça reviennent toujours. Parce que quand vous regardez la télévision, c'est l'agitation, c'est toujours le même qui s'agite, qui font des bruits. Et comme les critères dans ce pays, pour que vous soyez nommé et vous soyez accepté quelque part, il faut faire beaucoup de bruits. Et on oublie que ces gens-là ont été déjà quelque part, ont eu une fonction et ils en avaient abusé et ils n'ont rien fait de bon pour le pays. Mais ce sont les mêmes qui tournent, ce sont les mêmes qui vont à l'opposition, ce sont les mêmes qui dénoncent en majorité, et ainsi de suite. Mais le pays a combien d'habitants? Il y a combien d'intellectuels? Sur 100 millions d'habitants, on a toujours le même. On le nomme aujourd'hui, il ne fait rien de bon.
Merci beaucoup.
Mais c'est lui qui s'agite, qui vient encore tout ça. Non, moi je pense que cette fois-ci, on fait des critères objectifs comme cela et que le service de renseignement nous donne la liste de ceux qui sont les plus propres, de ceux qui travaillent pour l'intérêt de la nation et que ceux-là aillent leur mission pour l'avenir du pays.
Merci beaucoup Félicien. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Au Cathis Soir, je propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, des offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Soyi, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontre avec les Congolais de l'étranger et les nombreux sports sur les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Occupy Soir.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue donc dans Parole aux auditeurs. Voilà, la semaine dernière, je le disais, le facilitateur désigné par l'Union africaine a annoncé l'imminence de la mise en place du comité préparatoire au dialogue politique convoqué par le chef de l'État. Monsieur Kodjo a depuis lors enregistré plusieurs demandes des états-majors politiques et d'autres membres de la société civile voulant, bien entendu, faire partie de ce comité. Les uns ont demandé au facilitateur de tenir compte de leur longue lutte pour la tenue de ces assises et les autres ont estimé que c'est un droit qui leur revient. Qu'en pensez-vous? Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Steve Mbikaï. Bonjour Monsieur Steve.
Bonjour.
Alors vous êtes porte-parole de la nouvelle classe politique. D'entrée des jeux, vous venez d'ailleurs de suivre les uns les autres, mais nous aimerions bien vous poser la question par rapport à vos déclarations faites ces derniers temps. Quels sont selon vous les profils idéal de ceux qui vont composer le comité préparatoire?
Merci d'abord pour l'invitation. Le profil de ceux qui vont composer le comité préparatoire, je considère que les gens qui ont une idée précise des travaux qu'on va faire, qui savent qu'est-ce qu'on va faire, qui ont déjà eu à prouver qu'ils ont des idées pour faire avancer les choses, mais aussi il faut que ce soit du côté parti politique, les partis qui fonctionnent, qui existent, parce qu'entre pays, généralement, quand on dit qu'il y a 500 partis politiques, ils sont souvent dormants. Les partis qui n'ont jamais été aux élections, avant l'élection, ils ne fonctionnent pas, après non plus. Seulement quand il y a un forum comme ça, tout le monde se réveille. Moi, je crois que c'est pas comme ça. Un parti doit fonctionner, doit avoir des idées, doit tenir des colloques, donc éviter des experts, et ainsi de suite, pour avoir une barre de données, avoir des données à présenter dans chaque type de rencontre qu'on peut avoir. Et aussi, on a parlé tout à l'heure, quand les gens luttent pour un dialogue, c'est qu'ils ont un contenu à donner. Moi, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai commencé à demander dialogue après le président Kabila. J'ai commencé avant le président Kabila. Souvenez-vous qu'il y a eu ce qu'on appelait coalition pour le vrai dialogue. Nous étions avec les Fidel Caméré, UNC, RCDKML, UDEMO, Parti Travailliste. J'étais porte-parole depuis 2013 parce qu'on avait refusé d'aller aux concertations parce qu'on avait estimé que les concertations c'était une espèce de congrès du PPRD. Et on a réclamé qu'il y ait un vrai dialogue. Et aujourd'hui, avoir les choses comme ça se passe, ça sera un vrai dialogue, parce que concertation, tout était boutiqué par le pouvoir, qui avait tout conçu, qui avait nommé les présidiums, des commissions. Aujourd'hui, c'est différent, c'est depuis juin 2015 qu'on a commencé le processus. Alors, ce n'est pas le président Kabila qui impose. Voilà le dialogue dont on avait besoin. Donc, quand on demande le dialogue, on avait une idée précise, ce dialogue, et nous avons quelque chose à porter. Et au mois de janvier, il faut organiser un conclave de notre plateforme politique, la nouvelle classe politique et sociale, pour réfléchir sur les élections, le processus. Et nous avons démontré déjà au mois de janvier que, avoir les choses telles qu'elles se passent, il sera difficile, faute du pouvoir, bien sûr, faute du gouvernement. Il sera difficile d'avoir les élections cette année dans la délai, et on a conçu des scénarios, des hypothèses. La première, avoir les élections à la date, et c'est ce qu'il faut faire en fait. Mais on a vu que le gouvernement s'est arrangé à ne pas financer la CENI et il l'a bloqué. C'est ce qui est difficile. Et s'il n'y a pas élection dans le délai, on se croit. Il y a deux hypothèses. Il y a une hypothèse de l'insurrection, ceux qui pensent pour l'insurrection. Il y a une hypothèse de ceux qui pensent qu'il faut alors avoir une période intermédiaire qui nous permettrait des fois de préparer l'élection. Et nous, au niveau de la nouvelle classe politique et sociale, les travailleurs, on a opté pour une voie qui nous amènerait à une solution pacifique. Donc, s'il n'y a pas élection dans le délai, eh ben, on peut avoir une période intérimaire, mais une période transitoire ou intermédiaire dans laquelle le pouvoir qui a failli pour les élections ne doit pas jouer un rôle principal. Et ces rôles doivent dévoluer à une personne de l'opposition qui devrait conduire le gouvernement pour rapidement nous amener à de bonnes élections, commençant par revoir la CENI, parce que nous pensons que la CENI est totalement acquise pour la majorité, et si on part avec elle comme ça, eh bien, ils vont encore produire, fabriquer une victoire. Il faut revoir la composition de la Cour constitutionnelle, il faut revoir la composition de la territoriale, parce qu'aujourd'hui dans le pays, tous les secteurs, tous les quartiers, tous les territoires, toutes les provinces sont gérés par l'AMP alors que ces gens n'avaient pas été élus. Alors ces gens souvent influencent les électeurs, même à l'intérieur. Il faut corriger avant d'aller à de bonnes élections. Parce que nous voulons bien une élection qui va nous amener à faire les pouvoirs gérer la position. Vous voyez, nous avons un schéma clair qui peut être mauvais. Ça peut être mauvais, mais c'est un schéma. C'est une idée à débattre. Mais aujourd'hui, si on peut, par miracle, aller vite avant les élections en novembre, c'est ce qui est souhaitable, en fait.
Oui, restez un peu dans les comités, parce que vous avez déjà un cahier des charges bien clair. On a l'impression que, en tout cas, dans ce plusieurs points constituent quand même des dénominateurs communs avec d'autres qui, en fait, ne se réclament même pas d'entrer dans ces comités préparatoires. Je cite la dynamique de l'opposition, les G7, qui tiennent au délai constitutionnel et aussi disons, à une période intérimaire, mais sans le pouvoir en place parce qu'il a failli. Voilà. Alors, est-ce que vous estimez, vous, personnellement, comme les autres le pensent aussi, qu'il va falloir absolument faire partie du comité pour faire passer ces cahiers des charges?
Oui, et d'abord, je veux dire, c'est vrai qu'il y en a qui pensent à une période intérimaire, il y a une différence avec une période intermédiaire. Vous voyez, c'est dire, tout ça soit se négocier. En démocratie, on n'impose pas. Comme je dis souvent, en politique, il n'y a pas de vérité absolue. Toute vérité est relative. S'il y en a qui pensent qu'il faut une transition sans Kabila, c'est un droit, on est congolais. S'il y en a qui pensent que pour la paix, on peut avoir Kabila à la tête, mais sans trop de pouvoir, eh bien, c'est une option. On dit bien que du sort des idées, j'ai la lumière, il faut la dialectique. Il faut que tout le monde se retrouve. Et ceux qui veulent le départ de Kabila, ceux qui, la majorité qui veulent qu'il soit là, ceux qui veulent qu'il y ait un gouvernement de l'opposition. Et quand on va discuter, n'est-ce pas, à la fin des comptes, on aura une synthèse. En démocratie, on n'impose pas, sinon ça serait la guerre, ce point de vue. Vous comprenez? Alors, ce que je dis que, déjà, à mon niveau, après qu'on ait pondu notre plan sur les crises, j'ai même fait des démarches, j'ai fait voir la dynamique. Quand c'était M. Léon Colli qui modérait la dynamique, parce que je veux bien l'inclusivité. C'était pour leur faire voir, n'est-ce pas, notre plan sur les crises et demander s'ils le critiquent et savoir ce qu'ils en pensent. J'ai été voir Mokia et je veux continuer à voir les autres parce que je milite pour l'inclusivité.
Est-ce que quand vous parlez de l'inclusivité, vous parlez de l'inclusivité numérique ou bien de l'inclusivité des pensées, c'est-à-dire de courant de pensée, comme l'a dit Alain Bolozois, que vos pensées fédèrent autour d'une pensée unique, notamment au niveau de l'opposition, parce que vous parlez de la transition, l'UDPS ne veut pas entendre parler de la transition, du G7 ou encore la dynamique, ne veulent même pas. Alors, vous ne trouvez pas que là, nous nous retrouvons dans une convergence parallèle?
D'abord, je veux dire que nous ne souhaitons pas la transition. Nous ne voulons pas la transition, mais nous disons que avoir les choses telles qu'elles se passent, on risque d'arriver là. Alors si on peut nous produire le moyen aujourd'hui, ok, et comme le Conseil de l'ONU a demandé de soutenir la résolution électorale par la MONUSCO, s'il y a tout le matériel l'idéal serait qu'on aille dans, à des élections dans le délai constitutionnel. Mais un homme politique doit avoir plusieurs scénarios. On ne peut pas aller sur un seul schéma. Il faut avoir plan A, plan B et plan C. Est-ce que nous avons fait nos autres? Et vous verrez que généralement, eh bien, on va tomber sur ça parce que il faut voir, il faut être peut-être frappé ses cités. Il faut continuer à croire qu'à 3 mois, à 4 mois, décembre, sanction électorale.
Est-ce que la population attend cette transition?
Non, mais écoutez, la transition est une mauvaise chose. Sauf qu'elle peut s'imposer. Oui, la population ne peut pas vouloir une transition parce que la population veut avoir les élections dans le délai. La transition, c'est une mauvaise solution qui découle du fait qu'on a bloqué le processus
électoral. Si la transition peut s'imposer, la population risque de s'imposer.
Mais c'est vrai. Et la population, c'est ce qu'on appelle le souverain primaire. Le peuple n'a jamais tort. Le peuple peut faire ce qu'il veut. Mais le peuple est souvent éclairé par les leaders politiques. Vous comprenez? Donc quand on vit ça, on ne mérite pas pour une transition. On veut qu'il y ait élection dans le délai. Mais au cas où il n'y en a pas dans le délai, on sait quoi? Il y a deux hypothèses. Insurrection, négociation. Alors, tu sais que moi, je suis un syndicaliste. Et au syndicat, quand il y a des problèmes, eh ben, il y a toujours une négociation.
Voilà.
Et quand on négocie, il y a trêve. Quand ça échoue, on fait la grève. C'est comme maintenant. Je veux qu'on négocie, on dialogue. Mais si on trouve que le pouvoir nous bloque systématiquement au dialogue, on sort, là, on peut passer à l'insurrection. Et c'est pourquoi je demande que nous qui allons au dialogue.
Non, le terme peut-être il est fort, insurrection, mais j'aimerais bien qu'on utilise peut-être un terme un peu à autre, c'est-à-dire la manifestation.
Nous sommes les partisans du dialogue. Et il y en a qui sont les partisans de ce qu'on appelle application de l'article 64. Et cela veut dire, quand on appelle ça par son nom, c'est-à-dire renverser les pouvoirs par la rue.
On va réussir le temps d'accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Dali.
Voilà, nous prenons Frédéric qui est à Kananga. Frédéric, bonjour.
Gilles, bonjour à Simitaï, bonjour à tous les compatriotes.
Quel est votre avis par rapport à ces débats?
Merci beaucoup. J'appelle la pertinence de la question, la question que vous évoquez bien entendu aujourd'hui. J'ai suivi les uns et les autres. Moi, je pense qu'il faudrait un tout petit peu placer les mots par rapport à mon appréhension. J'ai saisi bien la question, elle est vraiment pertinente. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas balayer à dos revers de la main les exigences de certaines parties critiques, même si aussi ils sont seulement très forts. Ils veulent seulement exprimer leurs intentions. Nous avons toujours dit dans ces pays, compatriotes qui a estimé, que la plupart des fois, ce sont les partis qui veulent exactement courir, mettre à nu leur avidité, donc leurs ambitions claires de vouloir bloquer le processus. Aujourd'hui, le dialogue est en train de vouloir être organisé. J'ai suivi vous poser la question, comment on peut percevoir certaines expressions de partis qui estiment que c'est nous qui avons milité pour que le dialogue soit organisé. C'est nous, en principe, qui devons avoir un quota élevé dans ce forum. Moi, je pense que c'est aussi exagéré, mais je pense que c'est là que la question d'un véritable parti politique de l'opposition peut se poser. Qui est véritablement opposant? Moi, je pense que les autres peuvent attaquer ces propos, estimant qu'ils sont tout simplement forts, ils expriment tout simplement la volonté manifeste de ces partis politiques dont l'une des que vous avez cité tout à l'heure là, de ces représentations au dialogue. Nous voulons exactement qu'il y ait un dialogue inclusif. Vous l'avez suivi, c'est un dialogue inclusif. On ne veut pas avoir dans le pourparler. On voit exactement qu'on voit plusieurs composantes qui vont exactement dialoguer. Quel est mon problème que je pose jusqu'ici? Tout à l'heure, je me suis posé la question, qui est vraiment opposant dans ce pays? Ça sera peut-être malheureux de voir les gens aujourd'hui qui ont mangé dans l'assiette du pouvoir, qui ont mangé avec les doctrinaires actuels du pouvoir, qui aujourd'hui, par le fait qu'ils n'ont pas vraiment été bien traités, ils se sont retrouvés finalement opposants. Moi, je pense que c'est vraiment très intéressant d'apprendre ces gens-là qui n'ont jamais été opposants, qui se sont retrouvés par une simple facilité opposant, je crois que ça ne pourra pas aller. Il faudrait qu'on se pose la question.
Mais alors, on va éviter de tomber dans la sémantique, hein, pour chercher un peu l'explication claire qui est opposant, qui ne l'est pas, dans l'opposition. Alors, c'est un débat qui date quand même depuis la nuit des temps, hein, surtout en République démocratique du Congo, on ne doit pas revenir. Moi, je vous renvoie peut-être à relire l'exposé des motifs de notre Constitution. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons ces textes-là, parce qu'il y a eu plusieurs cas d'illégitimité de pouvoir. Alors, pour mettre un frein à ces gens, les gens se sont retrouvés à Saint-Séti pour coucher ce que nous avons aujourd'hui par les Sénats transitoires. Mais alors, Frédéric, vous estimez comme les autres que nous devons éviter de l'égocentrisme dans cette affaire, voire plutôt l'intérêt. Il y a quelqu'un qui a parlé même de le premier critère doit être la compétence pour préparer. Ce n'est pas tout le monde qui doit se bousculer, il faut défendre le courant des pensées. Merci beaucoup. Arsène, vous avez compris. Oui, Frédéric, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de
gens. Ouais. Non, je voudrais signer, parce que je suis peut-être en tenant compte que tout le monde participe dans ce dialogue. C'est pratiquement toute la République qui va participer. Alors qu'il y a question jusqu'ici, parce que même si vous voulez qu'on ne puisse pas évoquer la question, de tout le monde qui ne l'est pas, moi je pense, même si on prenait juste l'exemple de cette question retrouvée aux élections, il y a tout le monde qui a évoqué cette question-là, et le premier pertinent. Les gens qui ont participé aux élections, qui étaient dans le temps de l'opposition, parce que si on tient compte, vous avez parlé de 12 personnes qui vont participer pour le quota dans le quota de l'opposition. On n'a pas 12 partis de l'opposition dans ce pays pour que tu se répartis les 12 personnes. Moi, je pense qu'il faudrait exactement qu'on évoque cette question-là pour qu'on fasse qui effectivement va venir parler de l'opposition, c'est de faire appel aux gens qui ont mangé avec le pouvoir, qui sont finalement retrouvés en faisant à la dernière minute, qui vont risquer justement de brûler la carte.
Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Arsène, vous êtes à Kikwit, c'est Marc de Cher, Bois d'Évité, on vous prend, et puis, comme il y a une question directe, on reviendra à l'autre invité pour répondre qui est opposant, qui n'est pas Arsène. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Ok, moi je voulais dire ceci. Si je vois un peu cette situation un peu dans la profondeur, je peux classer ça en trois positions, en trois groupes de gens. Il y a un groupe qui veut nécessairement bloquer le processus électoral par manque de moyens et aller dans une transition qu'il compte avoir toujours le pouvoir. Il y a un autre groupe, l'UDPS, qui veut une transition, mais avec, tu t'es dit, à la tête. Il y a un autre groupe qui veut une transition, mais où peut-être approximativement, comme le dit M. Steele, trouver une procédure entre les deux. Et il y a un autre groupe qui n'en veut même pas. Alors, s'il faut bien situer ces gens-là, vous verrez que quelque part, ils cherchent le pouvoir. Et le pouvoir ne peut pas venir d'une certaine conférence ou d'un forum. Non et non. Ne pensez même pas à ça. Vous risquez de provoquer une insurrection. Le pouvoir ne peut que s'acquérir aux élections. C'est là où nous devons voir le souverain primaire.
Oui, Arsène, alors droit au but, quel est le profil idéal pour celui qui peut faire partie du comité?
C'est la compétence. C'est la compétence, un point intérêt, ce ne sont pas les clivages politiques. C'est la compétence. Je crois que dans l'opposition, il y a des gens assez compétents qui peuvent aller faire ce travail-là.
C'est et du côté du pouvoir aussi,
il y a des gens compétents qui peuvent aller faire ce travail et du côté de la société civile. Au cas contraire, ça ne serait rien, vraiment rien, vous allez tout droit vers l'insurrection.
Merci beaucoup, voilà. Arsène. Nous allons prendre un autre auditeur qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour, vous direz, c'est Mardoché depuis
Guadeloupe. Oui, Mardoché, vous êtes à Guadeloupe.
Bon, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je voulais simplement dire ceci. C'est vraiment honteux de voir des choses qui se passe pas comme il faut dans notre pays.
Vous venez de suivre Arsène de Gucci qui a évoqué la compétence comme le plus grand critérium. Hein, parmi les critériums, donc, il faut noter la compétence. Bon, je ne sais pas comment on va évaluer la compétence des autres.
Ah, bon. Ça, c'est un point de vue. Je voulais dire ceci. Parce que, vous savez, j'avais écouté le secrétaire de l'UDPS qui disait que si on parle de l'opposition qui veut aller dans ce dialogue, c'est l'UDPS. Or, c'est faux. Ce n'est pas seulement l'UDPS qui est le principal opposition dans notre pays. Il y a aussi des opposants qui avaient aussi milité pour ce dialogue. Comment il peut avoir ce filon-là de monopoliser?
Merci beaucoup, merci beaucoup, Marie-Chérie. Nous revenons à vous dans ce studio, Sylvie Mikaï. Vous venez de suivre les uns les autres. Le plus grand débat tourne autour de qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est pratiquement le même débat. Nous revenons encore 20 ans en arrière ou 30 ans. Voilà.
Oui, je suis d'abord agréablement surpris par la qualité des intervenants. Je pense que vous voulez sélectionner, parce que tout ce qu'ils ont parlé...
Bon, ils appellent librement. Il y a un filtrage, c'est vrai, qui s'est fait en amont, mais en tenant compte de la qualité des auditeurs.
Je sens qu'ils ont du niveau et je les félicite. Je crois que celui qui a soulevé la question de savoir qui est opposant, qui n'est pas, il a raison. Il a raison, parce qu'il y a des familles politiques. Quand vous êtes la majorité, vous n'allez pas apparaître à l'opposition et vice-versa. La loi portant statut de l'opposition définit qui est opposant, en fait. Je crois que c'est, doit être l'article 16.4, c'est pas, ou bien l'article 2, est opposant, n'est-ce pas? C'est lui qui ne soutient pas d'abord le programme du gouvernement. Par exemple, il parle de la modernité, c'est un chantier. Quand vous êtes d'accord avec ces concepts de la majorité, donc vous êtes la majorité. Quand vous êtes contre le programme du gouvernement, son projet de société, c'est l'un des critères. De deux, il ne faut pas être dans l'exécutif, donc au gouvernement. Mais je crois que l'UDPS n'a pas aussi tort à 100%. Parce que quand j'ai approché cet état de l'UDPS, ils ont dit que, et n'ont pas dit qu'ils vont prendre toutes les 12 places de l'opposition. Mais sauf que, et nous, au niveau de l'administration politique, quand on a tenu une réunion, on a vu l'aspect positif dans ce qu'a dit aussi l'UDPS. Parce qu'on a le parti ici qui n'ont jamais agi, qui sont dormants, pas de siège, pas d'activité. Qui n'ont qu'un arrêté. Quand on va à des assises, ils se pointent comme opposants. Deux, il y a les gens qui sont au gouvernement, mais qui prétendent toujours être de l'opposition. Alors, si on demandait à Eden Kodio de dresser une liste des opposants au dialogue, vous verrez le groupe opposant Kengo qui serait là. Comment est-ce qu'on peut être au gouvernement et de l'opposition? Vous verrez le groupe du MRC libéral de M. Maluaka qui serait là. Donc, c'est une confusion. Ça, c'est le côté positif de ce que a dit l'UDPS. Le côté négatif, c'est de prendre cette position d'autorité et dicter ça comme une décision, comme une ordonnance. L'UDPS aurait bien fait de consulter d'autres forces politiques de l'opposition pour discuter et mettre sur pied les critères. Parce qu'il faut qu'il y ait des critères. Vous voyez, si vous êtes de l'opposition, il faut démontrer par vos gestes, vos propos, quand est-ce que vous avez eu à critiquer les pouvoirs, par exemple? Il y a les partis qui n'ont jamais ici critiqué les pouvoirs, n'est-ce pas? Qui se taisent toujours, mais qui veulent venir parler au nom de l'opposition. Ça, c'est aussi à côté. Alors, ce que moi je propose, c'est que l'UDPS, en tant que la première force de l'opposition, devra fédérer, n'est-ce pas? Devra fédérer, nous inviter pour qu'on discute. On met sur pied les critères, hein, comme a dit quelqu'un, par rapport au dialogue. Il y a eu des postes qui s'est battu. Il y a aussi nous, le groupe politique et social. Il y a le
G5 civil.
Ah oui, il y a le G5, le groupe qui s'est battu aussi. Oui, il faudrait dans cette composition, toutes les tendances se retrouvent. Mais les premiers critères, comme on l'a dit,
ils peuvent se retrouver au dialogue, proprement dit. Mais dans le comité préparatoire, c'est un groupe restreint. Vous préparez le...
D'accord. Et puis déjà, 12 personnes, c'est restreint. Dans 12 personnes. Mm-hmm. Si on prend, par exemple, 12 personnes de l'UDPS, on a une seule pensée. Or, nous sommes dans le pluralisme politique. L'UDPS s'est battu depuis des décennies pour la démocratie. En démocratie, il y a plusieurs opinions. Exemple, moi, je donnais ma vision des choses. L'UDPS a la sienne, vous voyez. Et d'ailleurs, Notre avantage, c'est-à-dire une autresse, c'est que au dialogue, on peut avoir un porte-parole. Il y aura de l'ordre sur le banc de l'opposition que si jamais on y allait vaille. Et moi, je sais, comme moi, je suis un homme de dialogue, on doit commencer par dialoguer au sein même de l'opposition. On ne peut pas prétendre dialoguer, être démocrate et s'imposer. Et je sais aussi que quand on va débattre, 12% place, c'est beaucoup, à mon avis. Parce qu'on voit trop bien, nous avons deux groupes ici. L'opposition contre le dialogue dynamique. Il y a aussi le G7, ce sont les dissidents de la majorité. Faire la part des choses entre une opposition et une dissidence, on parle français. Quand on est.
Mais Eden Kodjo, sauf en tout cas sous réserve de ceux-là qui ont des formations, va faire les déplacements de Lumbashi pour rencontrer celui que le G7 a choisi.
Oui, parce que comme. C'est une opinion, je respecte.
Oui, parce que quand vous dites que c'est la majorité.
Non, je n'ai pas, c'est la majorité. Ils combattent aussi le pouvoir. C'est quoi une dissidence? Une dissidence, ce sont les gens qui ont conçu ensemble un projet de société, un programme qui les existe ensemble, mais qui se brouille pour autre chose, différente du projet de société, comme c'est le cas maintenant. Quand ils quittent, ils n'ont jamais dénoncé leur programme et leur projet, c'est-à-dire, s'ils sont élus aujourd'hui, ils vont appliquer leur système. Ça, c'est une dissidence. Une opposition, ce sont les gens qui, dès le départ, ont un projet de société différent du pouvoir. S'ils passent, ils vont l'appliquer. C'est vrai que les dissidents sont contre le pouvoir, mais ce n'est pas une opposition. Parce que si je parle français, vous comprenez? Alors, il y a ce groupe qui est contre le dialogue. Il y a nous qui sommes pour le dialogue. Moi, je pense que les deux groupes peuvent s'entendre, c'est-à-dire, les uns restent en dehors. Si nous nous passons au dialogue et que nous sommes bloqués par la mauvaise foi du pouvoir, nous sortons, on signe là le schéma de la force sur le terrain.
Voilà. Merci
alors
beaucoup.
Si nous aussi,
pour éviter la politique de chaque ville.
Oui, si nous aussi nous arrivons à avoir de bonnes raisons pour le pays,
ils vont vous rejoindre.
Ils vont nous rejoindre. Ouais. On ne doit pas se diaboliser. Alors, qu'on s'entende de nous de trop dialogue. C'est pas avec le pour le quota. Mmh. Eh bien, avec IDPS, je suis sûr qu'on va nous s'entendre. Et pour aller à la
oui, première au dialogue. Ça s'annonce déjà mal. Les facilitateurs avaient annoncé avec imminence la mise en place de ce comité. Et bon, on se rend compte qu'ils se retrouvent en difficulté. 081-890-7315.
Cette histoire vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Kiyuba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et le Maso Sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Petit Histoire.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Nous avons le plaisir de recevoir en ligne Josué Alex Mukendi, un ancien candidat président à la présidentielle 2011. C'est lui-là qui nous arrive également dans le débat. Josué Alex Mukendi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Voilà, merci d'avoir accepté de participer à ce débat et d'avoir appelé. Quel est votre avis par rapport à ce débat?
Le débat, c'est le dialogue, vous dites.
Le débat, c'est les comités préparatoires pour aller au dialogue.
Je vous écoute, messieurs les journalistes. Hein. Je crois que nous sommes en train de tomber dans le même schéma du Abdelawad, Palais de Marbre 1 et Palais de Marbre 2. Nous cheminons vers là. Avant de parler du comité préparatoire, si on veut que le dialogue soit inclusif, il faut une certaine adhésion. Je ne dis pas l'adhésion totale, une certaine adhésion. Les acteurs politiques qui ont de l'opinion sur la collectivité nationale. Si on parle maintenant du comité préparatoire, en tout cas, ça n'aboutira pas. C'est ça que j'avais proposé lors de votre interview sur les radios témoins. J'avais dit que le bon schéma, c'est d'abord que nous nous entendions ensemble sur les deux questions, les trois questions qui seront débattues au dialogue. si on ne s'entend pas sur ce sujet-là, en tout cas, on peut amener le facilitateur, mais il va constater l'échec. À mon avis, pour l'instant, on ne pouvait pas dire qu'on limite à 20, à 30 ou à 40. Non. C'est pour ça que j'avais proposé qu'il y ait d'abord une table ronde avec tous les acteurs politiques. On s'entend d'abord sur les sujets précis de la manière dont les élections vont se passer en 2016. Puisque la question du mandat du chef de l'État est déjà réglée dans la Constitution. Donc, si on commence par le comité préparatoire, en tout cas, ça n'ira pas. La seule chose que le facilitateur devrait faire, c'est de venir faciliter ce qui a été convenu entre les acteurs politiques. Ça, c'est mon avis. Je ne suis pas pessimiste, mais je vous parle en tant que candidat président aux élections de 2011, en tant qu'homme de Dieu, à la manière de Salomon. Je l'avais proposé. Je crois qu'à mon avis, le peuple maintenant ne sait pas où est-ce qu'on l'amène avec tous ces mismatchs. Et c'est ce que je crains.
Voilà.
C'est à ce niveau, c'est ce que je peux vous dire.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Josué. Donc, vous estimez que, en ce moment, qu'on organise la table ronde, pour permettre à ce qu'on puisse fédérer nos idées, afin d'aller au dialogue, pour éviter quelques blocages, hein, c'est cela. Hein.
Le blocage est déjà en vue. Vous l'avez constaté avec les comités préparatoires. À mon avis, notre ami le Togolais, il ne pouvait pas déjà dire. Je propose les comités préparatoires sans avoir vidé les problèmes qui méritent l'adhésion des acteurs politiques. Vous comprenez?
Voilà, merci beaucoup.
Il n'y a pas d'adhésion.
C'est difficile.
Je ne pense pas.
En effet, alors Josué, Alex Mukendi, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On va prendre l'ingénieur Valérie et Akita Lumbashi. Ingénieur Valérie, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Capri et bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, ingénieur.
Merci. Je voudrais poser la petite question à notre invité. Le dialogue, est-ce un impératif?
Non, mais ingénieur Valérie, nous avons évolué, on a progressé quand même avec les débats, on a fait beaucoup d'émissions sur le dialogue, mais aujourd'hui, c'est la composition du comité préparatoire. Quel est le profil, selon vous?
D'accord.
De celui qui peut faire partie. Bien.
Le meilleur profil pour le moment, c'est la compétence.
La compétence.
Et la grande question que je me pose, oui, la compétence. Mais la grande question que je me pose, si vous regardez bien, que ce soit à l'opposition, que ce soit à la société civile, vous comprendrez avec moi que la plupart n'envisagent que
leur propre intérêt. Merci
voilà
beaucoup.
Là où il y a
un blocage. Merci beaucoup, ingénieur Valérie. Augustin, vous êtes à Bouya. Bonjour.
C'est plutôt Sylvain.
Sylvain, oui.
Vous parlez avec Sylvain.
Oui, Sylvain, oui. Vous êtes à Bouya.
Bien, merci. Je voudrais saluer Steven Bikan.
Merci.
Mais je voudrais d'entrée déjà dire que ce comité préparatoire, dialogue inclusif entre les Congolais, semble déjà mal parti. Pourquoi? Lorsque vous attendez les acteurs majeurs de la scène politique, entre autres la personne que vous avez invitée sur le plateau, vous vous rendez compte déjà. Il y a un dilemme de choix. Un dilemme de choix qui se focalise sur la disparité d'appartenance politique, ce qui est dangereux. Je ne voudrais pas ici revenir sur les débats qu'ont soulevé les autres, qui est opposant, qui ne l'est pas, qui est de la majorité, qui ne l'est pas. Pour moi, lorsqu'on va au dialogue, on suppose qu'il y a déjà un problème. Et qu'à ce niveau-là, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, nous devons quitter ce chemin-là et aller pour l'intérêt de la patrie. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes arrivés au moment où nous devons avoir la convergence. C'est ce que nous voulons de ce pays. Qui va aller dans ce comité? Pour moi, l'élément que qui me paraît intéressant et capital, c'est d'abord des candidats, ou soit des Congolais, qui sont naturellement soudés avec leur base, qu'ils soient de la majorité, de l'opposition, de la société civile. Mais est-ce que ces candidats incarnent une personnalité vis-à-vis de la population? Puisque le travail que fera le comité préparatoire va encore redonner confiance, n'est-ce pas, avec ce qui se passera au dialogue. Et la population, puisque les soucis recherchés par le dialogue, c'est quoi? C'est essayer de remarier, n'est-ce pas, ce divorce entre le peuple et le dirigeant politique. Et lorsque nous amenons, nous identifions des acteurs, il faut que ces acteurs acquisent un ingrédient suffisant des relations qu'ils ont avec la base, avec la population congolaise. Les gens peuvent parler de la compétence, je sais que les Congolais sont compétents à écouter tout ce qui est intervenu dans cette émission, qui a défailli. Je pense que nous pouvons déjà dépasser ces doses. Le dialogue est un acte politique de haute envergure qui demande à ce que ceux qui participent soient réellement déjà qui peuvent remettre la soudure entre la scène politique et la population. Et moi, je pense que cela doit commencer avec ces fameux comités préparatoires. Je vais conclure à dire ceci. Je suis d'abord de ceux qui pensent que ce dialogue est inopportun pour moi. Ce qui porte pour moi, c'est qu'aujourd'hui, dans un esprit de la convergence patriotique, nous arrivions à nous mettre ensemble pour ramener le pays non vers le chaos, mais vers son émergence, vers sa sécurité, vers sa stabilité. Et je pense que ceux qui pensent qu'il peut y aller, il faut qu'il soit rassuré que réellement, quand il parle dans une société, on l'écoute. Voilà ce que moi j'ai dit.
Merci beaucoup Sylvain. Alors on va accorder une minute à chacun, le professeur Ignace Akolosi et Michel Amakagi. En tout cas, une minute, il faut être précis et concis, et puis on revient à notre invité pour conclure. Professeur Ignace, vous êtes Akolosi, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci et bonjour à l'invité. Moi, je voudrais simplement dire que tout part de la situation difficile dans laquelle se trouve le facilitateur ou le médiateur ici, excusez le terme. Je crois que lui qui avait consulté les gens en amont, il connaît exactement qui a, surtout du côté de l'opposition et de la société civile, il y a de quoi de penser et des regroupements politiques. Il devait lui faire attention et savoir qui doit nécessairement venir. Il a sur sa liste ceux qui doivent venir, ceux qu'il a consultés et ceux qu'il devait consulter. C'est en tenant compte de cela qu'il devait se fixer. Je pense aujourd'hui que le nombre de 12, si on est sérieux, sans égoïsme, on peut arriver, partant seulement des courants de pensée politique de l'opposition, trouver facilement, et même la société civile, trouver ceux qui vont réellement partir. Parce que pour moi, lorsqu'on ne réussit pas le consensus au sein des panneaux politiques, on échoue le consensus au sein de la nation et on n'arrivera à rien. Donc c'est déjà mal parti et nous verrons des situations telles que se passent déjà aujourd'hui.
Merci beaucoup, professeur Ignace. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Oui, bonjour. Comme je n'ai pas assez de minutes, je voudrais juste dire que si nous voulons que M. Edem Kodjo puisse régir sa mission, la solution est simple. Il faut d'abord qu'il écoute. Parce que si vous écoutez trop les hommes politiques, vous pouvez être conduit en erreur. Mais la meilleure solution sur laquelle, c'est d'écouter d'abord le peuple. Vous savez, nous avons aussi une facilitation au niveau du pays entre Moïse Kabila et Mobutu. Il y a eu un facilitateur, Nelson Mandela. Moi, je crois, c'était au cours de ces dialogues que Nelson Mandela avait dit clairement à Mobutu que vous n'avez plus l'appui de la communauté internationale, vous n'avez plus l'appui du peuple, de ton propre peuple, et vous n'avez pas aussi l'appui de ceux qui sont devant nous. Moi, je crois, Nelson Mandela a fait un conseil à Mobutu. Il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne te quitte.
Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. On va conclure avec notre invité, M. Steve Mbikaye. Vous êtes le porte-parole de la nouvelle classe politique. Vous venez de suivre les uns les autres autour de cette question sur le comité préparatoire. Qu'est-ce que vous répondez aux uns aux autres par rapport à la compréhension?
D'abord, j'ai compris que tout le monde qui a parlé, c'est le mot constructif, a donné de bonnes idées. Il n'y a pas eu écart de langage. Donc, je suis satisfait par rapport au niveau du peuple congolais. Alors, je veux dire aux gens, plus on va tarder à aller au dialogue, plus il n'y aura pas d'élection dans le délai. Parce que aujourd'hui, la CENI est bloquée, à part le moyen, n'a pas. Pour faire le calendrier, il faut un consensus. Nous, à l'opposition, on veut commencer par l'élection présidentielle. Et les gens de la AMP veulent commencer par l'élection locale. Qui va imposer à qui? Comme j'ai dit, en politique, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, il faut discuter. On se met d'accord pour savoir, on va commencer par quelle élection pour permettre à la CENI d'évoluer. Donc, le dialogue est tellement important. Mais aussi, les conseils, c'est quoi? Dans ces pays, il n'y a aucun parti politique qui peut se targuer de disjoncter seul des choses. La preuve est que, à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun parti qui est majoritaire. Même le PPRD qui gère les banques centrales, qui gère tout avec lui, n'a même pas 20% de sièges à l'Assemblée nationale. L'UDPS, qui est le premier parti de l'opposition que nous reconnaissons, n'a même pas 10% à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on doit absolument fédérer, on doit seulement avoir des consensus pour évoluer. En ce qui concerne la nouvelle capacité sociale, la NCPS, nous avons une idée claire du dialogue. On a pondu un schéma, et depuis qu'on l'a présenté, on n'a pas eu un schéma contraire au nôtre. Et quand on a pondu ce schéma, on a pensé éventuellement à une transition. Les gens ont cru que c'était le jeu du pouvoir. Que non ! Voilà qu'aujourd'hui, les députés de la majorité ont signé une pétition. Ils ont saisi aujourd'hui la Cour constitutionnelle.
C'est le débat qu'ils ont fait demain.
Ils sont contre la transition. Ils veulent, eux, glisser.
Non, nous allons faire ce débat demain.
D'accord.
Merci de nous avoir déjà, monsieur.
C'est pour dire que, dans notre schéma, nous, dialogue, période intermédiaire, revoir la CENI, revoir la Cour constitutionnelle, la territoriale, nous sommes le seul à défendre ça. Donc nous devons être au comité préparatoire pour avoir les autres, avoir un consensus. Et c'est son droit. Et pour les critères du côté opposition, je vous disais...
Mais vous avez déjà reçu des garanties de la part du facilitateur.
Des garanties.
Vous allez rassurer, assurance même que vous ferez partie du comité.
Non, d'accord, être au comité préparatoire, pour nous c'est son droit, n'est-ce pas? Mais tout simplement, je dis ceci, il faudrait qu'au niveau, avec l'UDPS, qui est la première force politique de l'opposition, eh bien, qu'il invite les forces de l'opposition. Il ne faut pas que les gens s'improvisent à la minute de devenir opposants. Il ne faut pas que ceux qui sont au gouvernement disent qu'ils sont de l'opposition, c'est une aberration. Et on se rencontre selon des critères. Ça ne doit pas être, n'est-ce pas, sentimental. X me plaît, il sera là, pas Y. Non, ne mettons pas les critères. J'ai vu l'AMPE et s'est réuni pour dégager, n'est-ce pas, ces délégués.
Mais l'ultimatum s'est pris déjà au 24 avril.
Non, l'ultimatum, parce qu'il y a une presse qui l'a donné. Mm-hmm. Si c'est une presse qui aurait retardé les choses, donc l'ultimatum n'agirait pas. Parce que l'idée presse, je crois que c'est la différence entre ces dialogues et les concertations. Ici, il y a des conditions. L'opposition ira souder. Avec porte-parole, et évidemment, on pourra annoncer les cahiers de charge. Donc, on n'a pas à s'alarmer, quoique on va finir par s'entendre l'opposition et que nous serons dans une déclaration pour le compte d'abord de la nouvelle classe politique et de G5.
Steve Mbikaï, porte-parole de la nouvelle classe politique, merci d'avoir été des nôtres. Voilà, nous disons également merci à tous ceux qui ont participé à cette émission et nous n'oublions pas toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. Voilà, on se retrouve demain. Je vous le dirai rapidement parce qu'il y a les...
Oui, mais s'il y a des questions à me poser, on peut s'appeler au 085 083 66 62. Je répète, 085 083 66 62.
Voilà, merci. Répondre, merci et à demain pour un autre numéro.